Vous écoutez RTL.
RTL.
Avant la naissance de la civilisation, les hommes étaient nomades et parcouraient la terre en quête d'un abri et de nourriture.
La curiosité est un vilain défaut.
Ils vivaient de la cueillette et de la chasse.
Jusqu'à 22h.
Le chapitre suivant a été celui de la sédentarisation et du contrôle des ressources naturelles.
Ils commencent à établir des communautés et c'est grâce à ça que la civilisation peut se développer.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais que s'est-il passé depuis longtemps? L'Occident a été une immense civilisation. Nous avons régné, nous avons frimé, nous avons inspiré. Et puis voilà qu'au XXIe siècle, la Chine est la première puissance économique mondiale. Mais que s'est-il passé? Est-ce qu'on ne sait pas un peu, Thomas, regarder le nombril?
On est pas mal encore, hein, quand même.
C'est bien, on est pas mal quand même. Et si finalement tous les ingrédients de cette réussite n'étaient pas déjà dans l'histoire de la civilisation chinoise? Bonsoir François Reynard.
Bonsoir Sylvie.
Bienvenue.
Bonsoir.
Dans La Curiosité, vous êtes journaliste et écrivain, vous publiez La Grande Histoire du Monde aux éditions Fayard. Vous racontez 5000 ans sur 5 continents. C'est une grande ambition, c'est justement pour échapper à ce regard auto-centré.
Oui, effectivement, c'est exactement l'idée. C'est que je pense que la France, elle étouffe un petit peu de ne regarder que la France. Hein. J'appelle ça le syndrome de la carte météo. C'est l'hexagone qu'on voit tous les soirs à la télé.
Et on est au milieu.
On a l'impression qu'on est au milieu et il n'y a rien d'autre autour. Hein, il n'y a personne d'autre. Alors là, non, il y a quand même d'autres qui... Donc je me disais qu'une histoire du monde, c'était important.
Vous trouvez, François Reynard, qu'on a perdu du temps, justement, à se croire un peu les meilleurs pendant les derniers siècles, les dernières décennies. Et du coup, on n'a pas vu les autres avancer autour de nous.
Alors, en tout cas, dans cette histoire du monde, il y a des moments cruciaux où des civilisations qui se croient les meilleures du monde cool parce qu'elles n'ont pas vu que les autres progressaient. C'est arrivé aux Chinois, c'est arrivé aux Arabes. Les Arabes, c'était la plus grande civilisation au monde. Hein. Et puis, à un moment, ils ont vu arriver à l'époque de Bonaparte, les troupes de Bonaparte, ils n'ont pas compris qu'ils étaient grands. Et ben, je pense qu'il faut que nous, on fasse attention à ça. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à l'histoire du monde. Il faut savoir d'où viennent les autres.
Alors, dans votre livre publié chez Fayard, vous remontez donc à la préhistoire. Nous, on a décidé vraiment de se concentrer dans la curiosité sur RTL, sur notre civilisation occidentale et la civilisation chinoise. On va commencer par la civilisation occidentale. Elle prend sa source à deux civilisations, la grecque et la religion judaïque, c'est ça?
Alors, on dit toujours que la civilisation occidentale, c'est le produit du mariage d'Athènes et de Jérusalem. Hein, c'est ce qu'on dit toujours. Donc, effectivement, la Grèce, c'est la philosophie, c'est le système politique, la démocratie, c'est notre manière de penser. Et aussi, le judaïsme et le christianisme qui est né à Jérusalem, c'est notre manière de croire. C'est ce qui aussi... Par exemple, une chose, on n'y pense pas assez, mais le fait que dans le judaïsme ou dans le christianisme, il y ait un Dieu qui a créé le monde à un moment donné et que le monde va vers la fin du monde, hein, puisque les religions, elles disent ça, il y aura un jour la fin du monde, est-ce qu'on sera sauvé ou pas sauvé à ce moment-là. Donc ça fait une vision linéaire du temps.
Et un peu négative.
Oui, quelquefois négative, quelquefois positive, mais en tout cas, dans cette vision linéaire du temps, l'idée, par exemple, dans laquelle on a tous marché en Occident, l'idée du progrès, l'idée de demain, on va avancer et on va avancer vers un mieux, c'est aussi une version linéaire. On verra tout à l'heure qu'en Chine, c'est pas comme ça, ils pensent pas en linéaire, ils pensent en circulaire. Bon, ben ça, c'est quelque chose qui vient du mariage d'Athènes et de Jérusalem.
Alors ce qui est intéressant dans cette histoire que vous racontez, cette grande histoire du monde, c'est qu'évidemment une civilisation se construit par bouleversement, par choc. Premier bouleversement de la civilisation grecque qui nourrit notre civilisation occidentale, c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est inventé à Athènes?
Alors, ce qui va être inventé, c'est extraordinaire, c'est la démocratie. C'est quelque chose qui... c'est inventé à Athènes, ça tout le monde sait bien, connaît ça, hein, démocratie, le pouvoir du peuple. On connaît tous ces deux mots grecs. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça a duré très peu de temps, en fait. Hein, ça a duré à peine un siècle, enfin à peine plus qu'un siècle. Et c'était à Athènes, parce qu'à Athènes, jusque pendant très longtemps, comme dans toutes les cités grecques, il y avait des rois. Puis à un moment, il y a eu un système patriarcal, des grandes familles qu'on appelle les eupatrides. Et à un moment, on a commencé à intégrer le peuple dans la décision. Et à un moment, le peuple s'est mis à décider. À l'époque de Périclès, au milieu du 5e siècle, vers 480-450.
Mais est-ce que ça veut dire qu'au même moment, en Chine, on a aussi l'idée de la démocratie?
Non, en Chine, il repose sur une autre idée. Les Chinois, très rapidement, dès qu'il y a un empire chinois, donc un petit peu plus tard, il y a l'idée que pour que la paix règne, pour que l'harmonie sociale règne, il faut demander aux lettrés de gouverner, ce qu'on appelle les mandarins. Hein, ce qu'on appelle les mandarins, c'est les occidentaux qui disent ça. Ça veut dire un lettré, quelqu'un qui a de la culture, qui a lu les livres. Tous les empereurs de Chine, ils s'entourent de lettrés et il y a des concours pour former ces lettrés. Et c'est comme ça qu'en Chine, on pense que... Donc c'est quelque chose qui est aussi d'un ordre... C'est pas la tyrannie, hein, l'empire chinois. C'est le despote qui est éclairé par des philosophes, des lettrés, etc. Ce qu'on appelle les mandarins.
Alors, qui dit démocratie, dit écriture de loi. Moi, j'ai découvert dans votre livre d'où venait le mot draconien.
Oui, draconienne. Alors,
j'avoue que je ne savais pas. Donc, maintenant, je sais que ça vient d'un législateur, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la démocratie en Grèce, donc au siècle avant, hein, au 6e siècle, là, il y a un personnage qui s'appelle Dracon. Dracon, c'est quelqu'un qui règne sur Athènes, qui est très dur, très brutal, mais qui fait faire un énorme progrès, c'est que les lois sont écrites. Elles sont écrites sur du bois et tout le monde peut les lire.
Donc elles existent.
Donc elles existent et on sait ce qu'on a le droit de faire, on sait ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors comme elles sont très sévères, elles nous ont laissé l'idée que c'est draconien, mais n'empêche qu'au moins le citoyen est protégé puisqu'il sait qu'il sait ce qu'il a, il est, au moins il est prévenu.
Donc on n'est pas encore en démocratie, mais c'est un premier pas.
C'est un premier pas vers quelque chose qui serait un espèce d'état de droit en quelque sorte, hein, quelque chose qui va dans ce sens-là. C'est pas l'arbitraire, c'est pas ben non, finalement t'as pas le droit de faire ça donc je te coupe la tête. Non, c'est. T'as été prévenu, tu ne l'as pas fait, ben la loi sera sévère, mais t'as été prévenu.
Donc à l'origine de notre civilisation occidentale, on est toujours dans cette idée de se comparer à la civilisation chinoise qui naît en parallèle. Il y a cette démocratie, ces lois draconiennes qui sont fixées un peu dans le marbre. Il y a aussi la pensée qui se développe avec Socrate.
Alors,
et les sophistes qui viennent contredire tout ça.
Alors disons que, oui, alors on va plutôt le mettre à l'envers, c'est-à-dire que quand il y a la démocratie à Athènes au 5e siècle, mettons vers 480-450, à ce moment-là, la délibération est très importante. Mais il y a aussi des gens qui pensent que pour que le peuple vote du côté qu'ils veulent, il faut être des beaux parleurs. Et les sophistes, c'est des philosophes qui, enfin, ça c'est Socrate qui dit ça, c'est les sophistes, c'est des philosophes qui vendent leur science de la parole aux politiciens. C'est un petit peu les communicants de l'époque, hein, c'est les ancêtres de Jacques Séguéla. Et lui, Socrate, il a horreur de ça. D'abord, Socrate, il n'aime pas la démocratie. Et Socrate, il a horreur de ça parce que seul importe le discours de vérité, seul est la vérité au fond des hommes. Le fait que ses paroles soient vaines, c'est ça qu'il appelle les sophistes et qu'il déteste.
En fait, c'est ça qui est agréable avec votre livre, François Reynard, c'est que c'est simplement brillant, c'est-à-dire qu'on vous lit et on comprend tout. Et ça, ça fait du bien. Alors pour fabriquer la civilisation occidentale, il a fallu un peu de civilisation grecque, on l'a vu. Reste à ajouter maintenant un peu de religion chrétienne. Notre histoire est une recette passionnante. A tout de suite, les curieux gourmands.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Raconter la grande histoire du monde, 5000 ans, 5 continents, c'est le défi, c'est l'ambition de notre invité François Reynard dans un livre publié chez Fayard. Et on relève nous aussi ce défi dans la curiosité sur RTL. Alors on a quand même choisi de ne pas tout raconter parce que c'était pas possible. Même si on a du temps, c'est un luxe hein, tous les soirs sur RTL. Mais bon, on a choisi de comparer la civilisation occidentale et la civilisation chinoise. Donc là, on est dans notre civilisation occidentale. On a vu qu'il y avait la racine de la Grèce et notamment de la démocratie qui a été créée à Athènes. Et puis, vous nous l'avez dit hein, en préambule, il y a aussi l'importance de Jérusalem. Athènes, Jérusalem. Donc, les religions. Les religions, c'est quoi? C'est une série de chocs, en fait, l'histoire des religions?
Bah là, ce qui est très particulier sur le, c'est que notre socle religieux, il vient du judaïsme, qui est la religion d'un petit peuple. Hein. C'est ce qui est étonnant, c'est que ce petit peuple est fini par avoir une religion, enfin, qui est transformée par le christianisme, qui a parlé au monde entier. Et ce qui est très important dans le judaïsme, effectivement, c'est l'idée du monothéisme. Et ce qu'il faut quand même se souvenir, c'est que le monothéisme, il n'est pas immédiat dans le judaïsme. Hein. Au départ, à l'époque de Moïse, par exemple, le Dieu dit à Moïse, tu n'adores pas d'autres dieux que moi, ça veut dire qu'il y a d'autres dieux.
Hein,
il y en a que les peuples. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre pour nous. Et un peu plus tard, peut-être sous l'influence, alors les chercheurs, il y en a qui disent que c'est sous l'influence de l'Égypte, peut-être sous l'influence des Perses, les Juifs sont arrivés à l'idée que non, c'est le monothéisme. Il n'y a qu'un seul dieu et il n'y en a pas d'autres. Voilà. Et le grand changement qui arrive avec le christianisme, c'est que là, ce Dieu qui était le Dieu des Juifs, eh bien, il va devenir un Dieu qui va parler à tout le monde. Ça, c'est ça le changement du christianisme. Mais la structure de la religion, elle est un petit peu la même, en fait.
La naissance du christianisme, c'est évidemment la naissance de Jésus de Nazareth. On est en quelle année?
Est-ce qu'on peut répondre à cette question?
Piège. Alors effectivement,
il a forcément la réponse. 5000 ans, 5 continents. Il a la réponse, François Reynard.
Piège. Alors
la date.
Non, mais c'est tout à fait. Mais le truc qui est amusant, c'est qu'évidemment, c'est en zéro, hein, puisque par définition, puisqu'on date l'ère de la naissance de Jésus-Christ. Sauf que c'est un calcul qui était faux. En fait, c'est un calcul qui était fait bien plus tard, comme des tas de choses dans le christianisme. C'est bien plus tard qu'on s'est dit, mais à propos, par exemple, l'histoire de la virginité de Marie. Tous les catholiques pensent que Marie était été vierge. Mais sauf que ça, c'est des conciles des 5e, 6e siècle, 600 ans après, qui ont dit bah, finalement, Marie était vierge. Donc là, sur la date de naissance de Jésus, on s'est trompé. Par convention, on garde cette-là. On pense qu'il est né 5 ans avant.
Ce qui donne naissance au christianisme, c'est quoi ? C'est l'annonce de sa résurrection, c'est ça ? Alors, après sa crucifixion ?
La chose, c'est qu'à l'époque, ce que les Romains appellent la Palestine est occupée par les Romains. Ce sentiment, cette occupation militaire à Jérusalem, elle crée des troubles. Donc il y a des tas de gens qui disent qu'il faut chasser les Romains. Et, voilà. Et dans ce temps d'incertitude, il y a beaucoup de gens qui pensent, enfin qui disent être le Messie, celui qui vient, qui est annoncé par les textes. Les textes disent qu'il y a un homme oint du Seigneur, un Messie, qu'on appelle un Christ aussi, qui va venir et qui va sauver le peuple juif. Et parmi tous ces Messies, il y en a un qu'on connaît plus particulièrement, qui est Jésus de Nazareth, effectivement, et qui, lui, il est crucifié. Alors là, quand on n'est pas croyant, il est crucifié et il meurt. Et quand on est croyant, il est crucifié, il meurt et effectivement, il ressuscite, il y a la résurrection. Et c'est ça qui fait qu'après ça, commence à se développer la croyance qu'il peut être fils de Dieu, etc. Mais le personnage important dans l'histoire, c'est saint Paul. Hein, saint Paul, c'est quelqu'un qui est un juif, qui est né à Tarse, qui s'appelle Saül, et lui, il persécute les chrétiens, parce que lui, c'est un juif pieux. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée qu'ils osent dire qu'il y a un Messie, mais il n'y a pas de Messie, etc.
Comment devient-il l'un des apôtres, alors ?
Saül de Tarse va à Jérusalem, il assiste au martyr de Saint-Étienne, il y a les juifs qui ne veulent pas d'Étienne qui le lapide, et puis il s'en va, et sur le chemin de Damas, il y a Saül qui tombe à terre. Il tombe de son cheval, il tombe à terre, et là, dit la tradition chrétienne, il y a une voix qui dit « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » C'est la grande phrase, voilà, et là, saint Paul, c'est ce qu'on appelle la conversion de Damas, la conversion du chemin de Damas, et là, Saül devient saint Paul, et donc saint Paul, il est très important, parce que lui, il prend ce christianisme qui était une religion qui appartenait à des juifs, il y avait des juifs qui disaient « le Messie, c'est, le Christ est le Messie », mais c'était des juifs qui pensaient ça, et saint Paul, il dit « non, il faut que cette religion-là parle à tout le monde. Donc, c'est pas seulement aux juifs, c'est aussi, il faut parler aux gentils, comme on disait. Ça, c'est très important. Et le truc qui est très important à ce moment-là, c'est la circoncision. Parce qu'évidemment, les gens qui étaient les juifs qui croyaient au christianisme, qu'on appelle les judéo-chrétiens, ils disaient, mais s'ils veulent venir chez nous, c'est très bien, mais il faut être juif, donc il faut qu'ils soient circoncis. Oui. Allez dire ça à des hommes adultes. Là, tout le monde peut comprendre,
c'est
compliqué.
Motivant.
Pas très motivant, bon, voilà. Oui. Et donc, quand on est nourrisson, ok, mais là, et donc, saint Paul dit, non, laisse tomber la circoncision. Et saint Paul, c'est lui qui fait du christianisme une religion mondiale, en fait, qui s'adresse à tout le monde.
Et ça va assez vite, finalement, à l'échelle de l'humanité, le développement du christianisme.
Oui, alors, avec un autre avantage particulier qui ne tient pas à Jérusalem, qui est le fait que Jérusalem, je l'ai dit, était occupée par les Romains, que les Romains, donc c'est l'Empire romain, que l'Empire romain, il fait tout le tour de la Méditerranée, et que donc les Romains vont à ce moment-là persécuter les Juifs. Les Juifs sont très très ennuyeux dans l'esprit des Romains, parce que les Romains, ils sont très très tolérants, très ouverts, les Romains, ils acceptent toutes les religions, mais ils demandent qu'une chose, c'est priez les dieux que vous voulez, mais priez aussi l'empereur. Et les juifs qui sont d'un monothéisme strict refusent de prier l'empereur. Donc ça, c'est pas possible pour les Romains. Donc il y a des révoltes juives.
Il y a un seul dieu.
Il y a un seul dieu, donc il n'y a pas l'empereur. Il y a des révoltes juives à Jérusalem. C'est ça qui fait que peu à peu, les juifs sont chassés. Dans ces premiers milieux juifs, il y a aussi des chrétiens. Et c'est comme ça que le christianisme se diffuse dans l'Empire romain. Donc si le christianisme est devenu une religion qui est en Europe aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été diffusée par l'Empire romain. D'accord ? Si ça avait été les Perses qui avaient été à Jérusalem, le christianisme serait une religion de l'Iran.
Alors François Reynard, je reprends notre petite recette pour composer la civilisation occidentale, notre civilisation. Il y a la civilisation grecque et le christianisme. C'est une fusion qui se fait quoi ? Sans heurts, en douceur ?
Ah bah c'est une fusion qui est très très difficile parce que le rapport est très compliqué. Parce que du côté de la tradition grecque, il y a ce qui va devenir plus tard l'esprit scientifique, la rationalité, la démocratie, etc. Et puis du côté du christianisme, au départ, il y a la révélation. C'est-à-dire que il y a Jésus qui a parlé et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin. Donc après, il faudra des siècles et des siècles et des siècles pour faire ce qu'on appelle le mariage de la foi et de la raison. Hein, ça, c'est le grand personnage qui essaie de cumuler ça, c'est saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge. Mais voilà. Et puis ensuite, toute la tradition occidentale, tous les progrès scientifiques, ce sera des gens qui vont se battre contre la religion. Hein. Galilée, il dit bah, « je suis désolé, il y a la Terre, enfin, il est désolé, il a un procès de l'Inquisition. » Il dit, je suis désolé, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Oui, mais sauf que l'Écriture disait le contraire. Hein, après, voilà, et tout ça. Donc les scientifiques vont toujours se battre contre la religion, parce qu'il y a toujours cette confrontation-là. La civilisation occidentale, elle est faite du mariage d'Athènes et de Jérusalem, mais aussi du divorce constant d'Athènes et de Jérusalem, de la bataille constante entre les deux.
Un couple
entre
la foi et la raison. Qui fait des efforts toute sa vie, c'est toute ça, pour durer.
Ouais.
Et pendant ce temps-là, en Orient, la civilisation chinoise se développe, vous allez le découvrir. Dès les premières pierres, elle n'a rien à voir avec la nôtre, et c'est pour ça qu'elle
c'est circulaire, c'est ce que vous nous avez dit. Nous,
c'est
on est linéaire et eux, c'est circulaire.
On circule, ça se...
Vous écoutez RTL.
Il y a 2000 ans, un prédicateur juif ambulant apparaissait en Palestine. Il prêchait le renouveau et l'amour. Il serait exécuté, mais son message survivrait.
RTL.
Les Grecs. Un peuple glorieux, arrogant. Un peuple qui, il y a bien longtemps de cela, posa les jalons de la civilisation occidentale.
La curiosité est un vilain défaut.
Aux racines de la civilisation chinoise, à la découverte de grandes dynasties et pourtant disparues.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comprendre l'évolution et peut-être le déclin de la civilisation occidentale face à la civilisation chinoise en remontant le cours de l'histoire. C'est notre idée de curieux et pour nous guider le journaliste et écrivain François Reynard qui publie La grande histoire du monde aux éditions Fayard. On a raconté cette naissance, c'est presque une recette évidemment parce qu'on aime bien vulgariser et rendre les choses accessibles de cette civilisation occidentale qui est le mariage pas facile à entretenir entre la civilisation grecque et la religion chrétienne. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Terre, il y a une autre civilisation qui se construit et tout commence autour d'un fleuve. Nous sommes en Chine.
Alors même de deux fleuves, enfin, mais c'est surtout le fleuve jaune et puis celui qui est en dessous qu'on appelle le Yangtze-Klang ou le fleuve bleu. Effectivement, là, comme en Occident et comme partout ailleurs dans le monde, il y a des peuples qui peu à peu commencent à pratiquer l'élevage, à pratiquer la culture, hein, l'agriculture. Alors en Chine, c'est toujours scindé par le fait qu'au nord, c'est le millet, au sud, le riz. Enfin, sinon, voilà, comme partout. Et puis peu à peu, se fédèrent des petits royaumes. Alors là, ça se perd un peu dans la nuit des temps. Les Chinois, ils prétendent que leur premier royaume, enfin, il y avait un personnage qui s'appelle l'empereur jaune qui était il y a 5000 ans. En fait, cet empereur jaune, il y a 5000 ans, personne n'en a de trace, c'est un empereur complètement mythique. Mais les Chinois adorent parler de ce type-là parce que ça leur permet de dire que leur histoire a 5000 ans. C'est genre, ah oui, mais vous, les Occidentaux, votre, l'ère chrétienne, c'est 2000, ouais. Moi, ça fait 3000 de plus. Donc, ils sont très contents de dire ça. Mais en fait, disons que c'est une histoire qui remonte à loin. La civilisation, c'est une vieille civilisation, mais qui ne remonte pas à 5000 ans.
Donc, ils cultivent du riz ou du millet, c'est ça? C'est quoi le millet déjà?
Le millet, c'est une graine, c'est une céréale qui, c'est comme le blé en fait. C'est
très très bon, Thomas. Vous devriez essayer en salade. Tiens, je vous ferai ça.
J'ai déjà goûté, mais c'était juste pour être bien sûr. Et puis, ces paysans chinois, ils vont maîtriser l'élevage d'un insecte qui va bouleverser cette civilisation naissante.
Oui, c'est quel insecte? Ça, c'est très amusant. Enfin, surtout de penser que c'est un élevage, parce que quand on dit l'élevage, nous, dans nos têtes, on imagine à la limite une basse-cour ou des vaches, quoi.
Des vaches, ouais. Hein,
et eux, c'est le bombyx, le ver à soie. Et ça, c'est donc, ils découvrent rapidement que ça, c'est très ancien en Chine, le bombyx, le ver à soie, que ce petit ver là, il fait une espèce de bave et qu'après, la bave, ça fait un cocon et le cocon, on le défile et que ça fait des robes merveilleuses. Et donc, la soie, c'est quelque chose qui, pendant très, très longtemps, va asseoir la prospérité de la Chine, hein, parce que la soie va être vendue un peu partout. Les Romains, par exemple, on était à peu près à l'époque du Christ, hein, de Jérusalem, les Romains, ils ne connaissaient pas la Chine, mais ils savaient qu'il y avait un pays qu'ils appelaient Serica, ça veut dire le pays de la soie, parce qu'ils n'y étaient jamais allés. Enfin, peut-être on retrouve des monnaies romaines par là-bas, mais en tout cas, il y avait des commerçants qui arrivaient, qui venaient et qui vendaient cette merveilleuse soie. La Chine, pendant jusqu'au XVIIIe siècle, elle doit sa prospérité à la soie, au thé, ce qui est une boisson chinoise, contrairement à ce que pensent les Japonais, qui sont un peu très raffinés, mais qui n'ont fait que copier ça. Et la troisième chose, c'est les porcelaines. Hein, les porcelaines, en anglais, on appelle ça China, parce que ça venait toujours de... Voilà, c'est ça qui a fait la prospérité de la Chine, et c'est ça qui fait les débuts de la civilisation chinoise.
Dans cette civilisation chinoise, dans ce millénaire, allez, on va dire millénaire avant Jésus-Christ, quelles sont les pratiques religieuses?
Alors, les pratiques religieuses, au départ, ça, c'est pas très clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une religion, il n'y a pas de religion révélée comme qu'il y a en Occident. Il y a deux personnages qui vont être très importants, qui sont à peu près à l'époque de Socrate, hein, pour aller vite, donc vers 500, disons 450-500. L'un qui est Confucius et l'autre qu'on appelle Lao Tzu. Alors Lao Tzu, lui, c'est le père, il est peut-être mythique, peut-être qu'il n'a pas existé, lui, il est le père d'une des religions chinoises qui est le taoïsme. Le taoïsme, ça va toujours du côté de comment est l'univers, comment je me place dans l'univers, comment, par exemple, la grande recherche des taoïstes, c'était l'élixir d'immortalité. Pendant des siècles et des siècles, les savants taoïstes, ils voulaient chercher l'élixir qui donnait l'immortalité. Mmh. C'est comme ça qu'ils ont découvert la poudre à canon, par parenthèse, qu'ils faisaient tellement d'expériences.
Ah, on a découvert plutôt l'élixir de mortalité, là.
Ouais, tout à fait. À un moment, ils ont trouvé un truc qui explosait. C'est comme ça qu'ils ont découvert la poudre à canon, mais ils cherchaient l'élixir d'immortalité. Et puis, il y a un autre personnage qui est très important, qui est Confucius. Confucius, alors lui, Confucius, en Occident, on dit toujours que ce n'est pas vraiment de la religion, parce qu'il ne parle jamais de Dieu. Ce qui intéresse Confucius, c'est l'harmonie sociale, c'est que la société soit en paix. Pour que la société soit en paix, il y a les grands principes confucéens. Ça veut dire, premièrement, il faut pratiquer le culte des ancêtres. Oui, tu dois respecter tes ancêtres, voilà. Deuxièmement, il faut que chacun soit à sa place. C'est-à-dire qu'il y a un grand proverbe confucéen qui dit que le prince soit le prince, le ministre, le père, le fils, D'accord ? Ça veut dire, quand t'es le fils, tu dois respecter ton père, etc. Ça, c'est et quand le père doit respecter le ministre, la hiérarchie sociale. Et l'autre chose, c'est les rites sociaux. Hein, le fait que tout le monde doit se rendre à des rites régulièrement, c'est ça qui fait l'harmonie sociale. Et enfin, que le pouvoir soit donné aux lettrés. C'est les lettrés, c'est les gens qui ont lu des livres, qui doivent savoir. Ça, c'est le confucianisme. C'est ça qui permet de faire l'harmonie de la société. Et officiellement, en Chine, la Chine d'aujourd'hui, elle se dit toujours confucéenne. Elle croit toujours suivre Confucius.
Alors, parmi ces pratiques religieuses, il y en a une formidable qui va donner naissance à quelque chose de formidable également. C'est la scapulomancie. Vous nous racontez ce que c'est ?
Ah oui. Alors ça, c'est bien avant. Hein. Là, j'étais vers 500 chez Confucius. Et là, on remonte peut-être encore 1000 ans en retard. Alors, la scapulomancie, c'est un mot latin, scapulae, ça veut dire l'épaule. Scapulomancie, c'est le fait de lire l'avenir dans une épaule. Ça paraît absurde, mais c'est évidemment une épaule d'animal, hein, on n'avait pas tué quelqu'un pour ça. Donc il y a un animal qu'on a sacrifié, un mouton, ou je ne sais pas ce que c'était d'ailleurs comme animal, une vache. On prend l'épaule, on la met dans le feu, et le feu fait des striures sur l'épaule, et selon les striures, il y a des devins qui disent c'est bien la preuve que le roi il va se passer ci et ça, etc. C'est ce qu'on appelle la scapulomancie, hein, le fait de voir l'avenir par le... Mais ce qui est très important, c'est que cette scapulomancie, elle est pratiquée dans beaucoup d'autres endroits au monde. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il y a un jour un psychanalyste qui devrait expliquer ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a une épaule. On met une épaule dans le feu. Moi, je n'aurais jamais pensé à ça. Mais... et on voit quand les brûlures du feu font des signes dans on lit ces signes. Et ces signes donnent aux devins l'idée qu'il y a des personnages qui sont là. Et c'est comme ça que les Chinois inventent l'écriture. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les idéogrammes ou les sinogrammes, les caractères chinois, hein, on voit tous ce que c'est, et bien ça dérive lointainement de ça.
C'est
ça
le plus vieux système d'écriture encore utilisé aujourd'hui.
Oui,
très clairement.
Exactement. C'est, absolument. C'est le plus vieux système d'écriture parce que, je ne sais plus, c'est 3-4 000 ans, quelque chose comme ça. Et, alors qu'il s'est beaucoup développé. Hein, aujourd'hui, je crois que des caractères chinois, il y en a 50 000, quelque chose comme ça. La plupart des Chinois ne les pratiquent pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça s'est développé pendant longtemps. Mais c'est toujours le même qui est en vigueur. Nous, on n'écrit plus comme les Égyptiens. Hein, le pauvre Champollion, il aurait été bien content. Il n'aurait pas eu à faire tout le boulot qu'il a fait.
Et donc, vous nous disiez, dans la pensée chinoise, il n'y a pas de dieu créateur. Il y a quoi à la place ?
Alors, effectivement, à la base de la pensée chinoise, il y a une énergie créatrice qu'on appelle le qi. Le chi s'écrit QI, ça se prononce chi. Et cette énergie créatrice, c'est une énergie, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle circule tout le temps. Et pour circuler, cette énergie-là qui circule et qui crée, qui crée la vie, qui crée le monde, qui crée l'univers, elle circule dans un système de piles électriques, en quelque sorte, positives et négatives, qu'on appelle le yin et le yang. Mm-hmm. D'accord ? Le yin et le yang, tout le monde a entendu parler de ce truc-là. Alors, on dit toujours, en français, on dit toujours c'est le féminin, le masculin,
oui,
le chaud, le froid, etc. Oui, c'est opposé, mais l'opposition, c'est juste comme l'opposition, effectivement, je disais, d'un pôle positif et un pôle négatif dans le courant électrique. C'est simplement ça qui fait circuler l'énergie.
Et on continue de partager comme ça votre passion pour l'histoire du monde. Tout est clair grâce à vous, François Renard. Alors on continue de se balader comme ça dans l'histoire de la civilisation chinoise.
Encore avec des
nous.
Lumières.
Ah oui, ça fait du bien.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Une histoire du monde, quelle ambition, c'est ce que nous propose notre invité François Reinhardt qui publie La Grande Histoire du Monde aux éditions Fayard. On a choisi si vous nous rejoignez, de nous concentrer sur la civilisation occidentale. On a expliqué ça tout à l'heure. Si vous n'étiez pas là, c'est dommage parce que c'était passionnant. Il faut aller sur rtl.fr. Et puis là, on explique les différences finalement avec la civilisation chinoise. Et il y en a une que j'ai apprise grâce à vous, c'est la linéarité du temps pour notre civilisation, alors que pour les Chinois, c'est complètement différent.
Il n'y a pas de fin du monde.
Pour les Chinois, il n'y a pas de fin du monde parce que tout tourne tout le temps. Tout tourne tout le temps. Par exemple, je peux prendre une autre représentation qui est une représentation politique. La représentation, nous, on a l'idée comme ça en Occident qu'un jour, on va trouver le système parfait, la croyance en la révolution. Hein, tous les marxistes croyaient à la révolution. C'était l'idée qu'on va trouver le système parfait. Bon, ça revient au paradis sur Terre. C'est-à-dire qu'un jour, il y aura la fin de l'histoire et puis comme ça, il y aura la révolution. Les Chinois, il n'y a pas cette idée-là. Enfin, les Chinois, officiellement, ils sont communistes. Enfin, ils ne sont pas tellement communistes, mais en général...
De moins en moins.
Leur idée, c'est plutôt, à un moment, il y a un homme qui a fondé l'Empire, hein, le premier empereur qu'on connaît tous par les guerriers de terre cuite. Et bien, ce premier empereur, ça c'était vers 300 avant Jésus-Christ, il a fondé un empire. Et ensuite, tout le temps, il y a une dynastie qui règne, hein, le père, le fils, etc. Et puis à un moment, cet empire se disloque. Et là, il y a une période qui est terrible, qui est une période de guerre civile, etc. Et puis, un homme arrive, un héros, il reforme l'empire. Puis une nouvelle dynastie, etc. C'est comme ça qu'il y a toutes les dynasties chinoises, les Tang, les Song, les Ming, etc.
Oui, mais là, on pourrait être dans un temps qui avance, dans une linéarité.
Il y a l'idée qu'il y a cet empire qui était puissant, il se disloque. Donc il faut retrouver l'unité, il se disloque, il faut retrouver l'unité, etc. Donc on n'est pas dans l'idée.
C'est comme un cercle qui se.
Voilà, qui éclate, qui repart. Voilà.
Hein,
aujourd'hui encore, je pense que dans l'obsession des dirigeants chinois à essayer de limiter toute la casse, d'empêcher les révoltes politiques, la dissension, parce qu'il y a la peur panique de cette chose-là. Il y a la peur panique que l'empire va s'éclater, quoi. Ils veulent le maintenir uni comme ça.
Ce qui est passionnant aussi dans votre livre, La grande histoire du monde, publié chez Fayard, François Reynard, c'est que dans notre civilisation occidentale, l'homme est au centre de tout. D'ailleurs, l'homme, pour les chrétiens en tout cas, croit en un dieu qui a fait l'homme à son image, tandis qu'en Chine, dans la civilisation chinoise, en fait, les Chinois font partie d'un univers qui roule de toute manière sans eux. Et ça explique, par exemple, qu'aujourd'hui, la Chine soit la première puissance économique. Elle ait pris une importance comme ça.
Je pense qu'il y aura des sinologues qui vont dire qu'ils se foutent de la gueule du monde. Ouais. Non, je ne me permettrai pas d'aller aussi vite que ça, hein, parce qu'évidemment, il y a tous les aléas politiques. Je pense que ce qui fait aujourd'hui que la Chine, elle devient ou elle va presque devenir la première puissance mondiale, c'est parce qu'elle estime qu'elle l'a toujours été. Parce que dans l'histoire, ça, c'est pas à la base de la civilisation, mais dans l'histoire, l'Empire chinois, ça a toujours été nous on n'a pas cette image là en Occident, mais eux ils dominaient, c'est-à-dire que ils ont le sentiment, quand on avait Charlemagne en 800, hein, en Europe, bon, Charlemagne, quand on regarde une carte du monde, Charlemagne et son empire carolingien, c'est pas grand chose, c'est la France, la Suisse, le Luxembourg, une partie de l'Allemagne, la Belgique, etc., et la moitié de l'Italie, c'est pas énorme, alors que la Chine, c'est une espèce de truc gigantesque déjà à ce moment là et à ce moment là En 800, c'est l'époque des Tang, les Chinois, ils avaient déjà inventé les inventions qui ont révolutionné le monde. Ils avaient déjà la boussole, ils avaient déjà le papier, qui est énorme pour la connaissance, ils avaient déjà la poudre à canon, on parlait tout à l'heure, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Chinois, ils ont toujours été cet empire énorme et puissant, ils l'ont été jusqu'au 18e siècle, et au 19e siècle, ils n'avaient pas vu venir un truc qui est la révolution industrielle. Il y a la révolution industrielle, brusquement, les Anglais, les Français, etc., étaient plus puissants qu'eux. Brusquement, les canons étaient. Ils n'arrivaient plus à lutter. Donc, ils ont été humiliés au 19e siècle. Et eux, leur obsession, c'est de dire on doit redevenir puissant comme on l'était avant le 19e siècle. Eux, ils ont une lecture de l'histoire qui est on a toujours été les premiers, on a toujours été les plus puissants, sauf au 19e siècle et au 20e siècle. Maintenant, fin de la parenthèse, on redevient les plus puissants. Alors ça, c'est lié, comme vous le disiez, au début de la civilisation, etc. Mais pas seulement, il y a toute l'évolution politique des choses aussi.
Mais sur la place de l'humain, c'est vrai que c'est une différence majeure entre nos deux civilisations.
Alors, je pense que là, il y a... Parce que dans la civilisation chinoise, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait le confucianisme, il y avait le taoïsme avec Lao Tzu, et puis il y a une troisième religion qui est arrivée plus tard, qui n'est pas chinoise, qui vient d'Inde, qui est le bouddhisme. Mm-hmm. Mais ça, le bouddhisme est arrivé d'Inde vers le 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, et là, il s'est répandu et il est très important. Et là, dans le bouddhisme, effectivement, je pense qu'il n'y a pas cette notion il y a moins cette notion de l'individu. Toi, essaie de te contrôler pour dépasser les souffrances, essaie de dépasser ça, mais un jour, tu vas accéder au nirvana, c'est-à-dire que tu seras fondé dans un grand tout. Il n'y a pas cette idée occidentale qu'on va mourir et il y aura la résurrection des corps. Hein, c'est ce que croient les chrétiens.
Mais pour bien comprendre, François Reynard, ça veut dire qu'on pense collectif avant de penser individuel.
Alors, effectivement, ça, c'est toujours ambigu ces choses-là, parce que si je dis ça, j'ai l'air de dire qu'il n'y a pas d'individu en
Bien
Chine,
sûr.
Etc. Donc, mais en tout cas, je pense que c'est des sociétés dans lesquelles le collectif et la place de l'individu et la hiérarchie sociale est plus importante. Par exemple, c'est un truc tout simple. Dans la tradition confucéenne, quand on s'adresse à quelqu'un d'autre, on ne dit jamais tu ou vous, etc. On dit... Moi, misérable petit cloporte de journaliste, ose parler à magnifique Sidonie, remarquable. Voilà.
Vous devriez me parler comme ça plus régulièrement.
Toutes les invités commencent comme ça, vous savez.
Voilà.
Vous n'êtes pas le premier, bon. François Reynard. Il me regarde à peine.
Hein. C'est au moment où il y a eu le contact avec l'Occident que, en Chine, en Indochine, qui était colonisée par les Français, tout ça, on a commencé à utiliser le je. Mais jusque-là, on ne l'utilisait pas. Hein, donc c'est une religion de la hiérarchie sociale. Mais ça ne veut pas dire que l'individu n'existe pas quand même.
Moi, j'aimerais vous poser une question. Il nous reste un tout petit peu de temps sur la médecine, parce que c'est un des aspects qui me fascine, moi, dans la comparaison entre nos deux civilisations.
Ah oui, tout à fait.
Conception de la médecine
tout
complètement
à fait,
différente.
Tout à fait. Alors ça, je pense que la médecine occidentale, elle est fondée sur l'esprit scientifique qui dérive des Grecs, qui est, pour comprendre un problème, coupe-le en petits morceaux et vois d'où vient le problème. Donc, coupe-le en petits morceaux. Là, je vais chez le médecin, j'ai mal à l'estomac. Bon, il va regarder cet estomac, comme il peut le voir, ou le palper, comme on faisait avant, etc. Parce qu'il y a un problème à l'estomac. Il faut savoir pourquoi il y a ce problème à l'estomac. Il va essayer rationnellement de chercher ça. Dans la tradition chinoise, de cette énergie fondamentale, là, le qi, il circule partout. Et donc, le médecin chinois, il va chercher la circulation de cette énergie. Donc, c'est pour ça que quand on va chez un acupuncteur,
il pique
la tête, parce que lui, il cherche le point d'énergie et dit, là, le qi, il est mal passé, et donc, il est mal passé dans le mauvais méridien, et donc, c'est pour ça, je vais piquer là, et ça va soulager
donc,
ton estomac.
Donc, c'est encore cette fameuse pensée circulaire, la pensée...
Tout à fait. Et la pensée qui... Nous, on a une pensée qui découpe.
Et puis une médecine préventive aussi.
Oui.
C'est une grande différence.
Oui, c'est vrai. C'est parce qu'il y a l'idée, si tes énergies circulent bien, tu vas être en bonne santé.
On a l'air de les opposer, mais pas du tout. Évidemment, ces civilisations occidentales et chinoises, elles se sont aussi, évidemment, beaucoup influencées les unes les autres.
Ah bah, là, par exemple, cette chose toute simple, qui est que la Chine, elle est officiellement communiste. Donc le marxisme, ce n'est pas un Chinois qui l'a inventé. Hein. Ils ont Lénine, ils ont la barbe de Lénine et la barbe de Karl Marx. Donc effectivement, bien sûr. Et puis la tradition chinoise, c'est la tradition du syncrétisme. Il y a eu Confucius, il y a Lao Tzu, il y a Bouddha, il y a Mao, il y a Karl Marx, etc. On rajoute des couches. Alors que dans nos traditions monothéistes, c'est beaucoup plus compliqué. Quand monothéiste, c'est ben moi, je suis chrétien, j'ai la vérité. C'est Dieu et c'est Jésus, tous les autres sont dans le mensonge. Alors que là, je pense qu'il y a un grand avantage chinois qui est le syncrétisme, les couches. On n'oppose pas les vérités, on les met les unes sur les autres.
Merci infiniment.
Merci.
François Reynard. C'était passionnant. Alors évidemment, on n'a raconté qu'une infime partie de cette grande histoire du monde qui était simplissime et passionnant. Merci. C'est publié chez Fayard, à dévorer pour tout comprendre. Enfin,
allez, vous allez sur rtl.fr pour podcaster cette émission. Demain, on laisse la place au foot, c'est le match Lyon-Juventus de Turin.
Ah, bon, on aura le temps de bosser encore une belle émission pour mercredi, une plongée au cœur de la beauté à travers les âges. On va aussi partir en Afrique sur la piste des rhinocéros et de leurs braconniers. Et puis on se demandera comment notre nez différencie le propre du sale.
Ah, ça promet ça. Tiens, belle fin de soirée tout de suite. RTL Grand Soir avec Agnès Bonfillon et Christophe Paco.
RTL, il est 22h.
Vous écoutez RTL.